Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour et bienvenue dans ce 12h où il sera question de l'objectif du nouveau président de l'ICCO, Raphaël Soriano, qui s'est engagé à renforcer l'action de l'Organisation internationale du cacao dans le développement de l'industrie cacaoyère mondiale. C'était à l'occasion du cinquantenaire de cette institution. Et puis dans ce 12h, nous parlerons également des dispositions prévues par le code électoral ivoirien après l'annulation des résultats des élections dans certaines localités par le Conseil d'État. Nous aurons le juriste Geoffroy Julien Kouao sur la question. L'actualité internationale nous conduira au Cameroun où au moins 27 personnes sont mortes dimanche dans un éboulement dû aux pluies à Yaoundé. Enfin, l'invité de la rédaction, professeur Jean-Marie Kouakou, qui sera en entretien avec Soro Adam, se prononcera sur la récurrence des coups d'État en Afrique de l'Ouest particulièrement et sur le fait qu'il soit bien accueilli par les populations. Voilà pour le sommaire. Mais avant de parler de l'objectif du nouveau président de l'ICCO, parlons du Sahara qui s'est achevé ce week-end. Plus de 400 000 visiteurs et 403 milliards de francs CFA d'intention d'investissement ont fait cas dans le Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui a officiellement fermé ses portes samedi 7 octobre. Le compte-rendu de la cérémonie de clôture avec Matatouri.
10 jours durant, ce sont environ 400 000 visiteurs qui ont pris d'assaut le parc des expositions d'Abidjan. Le chef du gouvernement s'est réjoui de la qualité et de la diversité des participants au Sahara 2023. Il a invité l'ensemble des pays africains en général et la Côte d'Ivoire en particulier à emprunter la voie de la transformation des produits agricoles. Patrick Hachi.
Cette 6e édition du Sahara a été l'occasion de confirmer 3 principaux enseignements. Que les États africains disposent d'un secteur agricole performant, résilient et innovant. En deuxième lieu, que ce secteur agricole africain dispose d'importants atouts pour être compétitif et créateur de richesses pour tous les acteurs, en particulier pour nos valeureux producteurs. En troisième lieu, c'est la mobilisation de la coopération de tous les partenaires et de tous les acteurs publics et privés et qui doivent accélérer le développement d'une agriculture africaine mieux insérée dans le segment les plus rémunérateurs de la chaîne des valeurs mondiales.
Il faut noter que la cérémonie de clôture du Sahara a été marquée par la remise des résultats du concours Actan, du 3e prix revenu à l'entreprise Cacao Land, le 2nd prix à l'entreprise Pleurote Africa et le 1er prix à l'entreprise Yamechi. Et parmi les recommandations, on retiendra surtout l'accélération pour les prochaines années de l'augmentation des agropoles à 5 d'ici 2025.
Agriculture, toujours fin des travaux de la célébration du cinquantenaire de l'Organisation internationale du cacao, organisation créée en 1973. Le nouveau président élu du Conseil international du cacao, Raphaël Soriano, l'ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire, s'est engagé à continuer de renforcer le rôle de l'ICCO dans l'industrie cacaoyère mondiale. C'était lors d'une conférence de presse le 6 octobre dernier. Il est au micro de Matatouri.
Je crois que ça témoigne l'engagement de l'Espagne et de l'Union européenne envers le défi de l'industrie du cacao au monde. Je crois que la contribution principale est de renforcer les rôles de l'ICCO, de l'organisation, en tant que centre de connaissances, d'innovation et de dialogue entre les pays membres de l'organisation, côté importateur, côté exportateur, ainsi que les principaux acteurs de l'industrie du cacao. Ça fait déjà 2 ans que je suis en Côte d'Ivoire, je suis conscient de l'importance de l'industrie du cacao, le défi d'augmenter le prix, d'avoir un prix juste pour les producteurs, l'importance aussi d'aboutir à certains objectifs de lutte contre la déforestation. Je suis convaincu que l'ICCO, dont nous venons de fêter fêter les cinquantenaires, non, continuera à être un espace privilégié de dialogue.
Nous écoutions à l'instant Raphaël Soriano, ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire, mais également tout nouveau président élu du Conseil international du cacao. Et parlons de sécurité routière, la 9e édition de la Semaine nationale a elle été dédiée aux commerçants et aux automobilistes. Ils ont été sensibilisés le vendredi dernier sur l'axe ancien corridor de Gesco à Yopougon sur l'autoroute du Nord. Cette troisième journée de sensibilisation de masse qui visait également les autres usagers de la route a porté sur le thème cohabitation des usagers dans la circulation pour une route sûre. Jean-Claude Mabéa a suivi cette étape sans compte rendu.
Consciente des risques d'accidents auxquels ils sont tous les jours exposés, Aïcha Keïta, vendeuse de pain sucré aux abords de l'ancien corridor de Gesco, dit ne pas avoir le choix.
On sait qu'il y a des dangers, mais on fait comment? C'est pas de notre faute, puisque c'est dans ça qu'on gagne nos pains, donc on est obligé de faire ça comme ça. Puisque quand on est derrière le client, on ne peut pas aller nous rejoindre là-bas, donc on est obligé de courir pour suivre les clients pour que les gars payent. Souvent, il y a les accidents, mais pas à notre niveau.
Cette campagne de sensibilisation vise donc à réduire le nombre d'accidents sur les routes, a expliqué le commissaire Gossan Raphaël, chargé des opérations et du contrôle routier à la police spéciale de la sécurité routière.
Naturellement, vous constatez qu'aux abords de la voie publique, il y a des commerçants. Nous, en tant que motivateurs des usagers de la route, pour éviter les accidents, nos sensibilisations vont à leur endroit. Vous allez remarquer qu'on leur a tous dit de se mettre à l'arrière de la route. Il y a d'autres structures qui viendront leur dire de quitter la mairie, a son rôle à jouer là-dedans. Mais nous, déjà, au ministère des Transports, c'est la voie publique qui nous intéresse.
Et Raphaël Iriebi, en charge des campagnes de sensibilisation à Lozère, l'Office de la sécurité routière, est revenu sur la notion de partage de la route et surtout de courtoisie au volant.
En matière de code de la route, chacun doit savoir ce qu'il doit faire afin d'éviter des accidents de la circulation. Et donc, lorsqu'on avait intercepté deux usagers ce matin, ils sont revenus sur l'aspect courtoisie. Ça aussi, c'est la cohabitation.
Signalons que Lozère, la police spéciale de la sécurité routière et la gendarmerie nationale sont impliqués dans cette 9e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière.
Contentieux électoral du 2 septembre dernier, le Conseil d'État, pour rappel, a annulé les résultats des élections locales dans certaines circonscriptions suite aux contestations faites par des candidats. Et selon le code électoral, de nouvelles élections vont se tenir dans les localités concernées. Là-dessus, écoutons Geoffroy Julien Kouaou qui donne des précisions sur ce que prévoit le code électoral ivoirien.
Lorsque le Conseil d'État annule une élection, c'est-à-dire que pour la haute juridiction administrative, l'élection a été suffisamment entachée d'irrégularités. Et dans ce cas, selon le code électoral, l'élection est reprise dans un délai de 3 mois. Cependant, le code électoral dispose que le gouvernement en conseil des ministres peut prolonger ce délai jusqu'à 12 mois, pas plus. Et lorsque l'élection est reprise, de nouvelles personnalités peuvent présenter leur candidature. De même que des anciens candidats à cette élection peuvent ne pas faire acte de candidature pour la nouvelle élection. Il est fait table rase de l'élection annulée. Donc, on assiste à une nouvelle compétition avec de nouveaux compétiteurs. Ce peut être les anciens. C'est peut-être de nouvelles personnes.
À ces élections annulées et reprises, est-ce qu'on peut encore faire des contestations?
Oui, évidemment. C'est une nouvelle élection. Parce que l'objectif ici, c'est d'organiser des élections honnêtes, crédibles et démocratiques.
Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique, il a été joint à l'instant par Constant Maïli. Et puis les organes municipaux de Diabo, commune située dans le département de Botro, région du Béké, ont été installés le week-end dernier. Kwame Marcel Détot a été choisi comme maire par les conseillers municipaux pour présider aux destinées de leur localité. C'est ce que nous rapporte Joseph Assalé, notre correspondant régional, dans ce reportage.
En sa qualité de superviseur de la mise en place des organes municipaux de Diabo pour les 5 années à venir, le secrétaire général de la préfecture de Botro a fait observer que si le maire est le premier responsable de la commune, il n'en demeure pas moins qu'il bénéficie du soutien de tous. Pour ce faire, Pas Timothée a sonné la mobilisation autour du conseil municipal de Diabo.
Le conseil municipal, c'est l'organe par excellence au sein duquel toutes les bonnes décisions sont prises. Si vous voulez que le maire ait des projets pertinents pour sortir Diabo de son sous-développement en griffe, en ce moment-là, il faut que vous veniez à cette assemblée-là pour discuter franchement, faire des propositions et permettre au maire d'être plus efficace sur le terrain.
Le nouveau maire de Diabo s'est aussi engouffré dans cette brèche en appelant ses administrés à l'union sacrée. Kwame Marcel Dieto.
Pour un Diabo prospère, il n'y a plus de parti politique, ni de RHDP, ni de PDC, ni d'indépendants. Nous sommes tous une équipe municipale pour servir notre belle commune qui est Diabo. Et je n'ai même pas d'appel à faire puisque l'équipe même est déjà soudée. Elle est soudée par ce qui vient de se passer. Nous avons fait un vote à 100%. À 100%, je pense bien que c'est un bon départ. Et j'invite tous mes parents, tous les conseillers à voir l'intérêt de la commune et vraiment on puisse travailler en de bons termes.
À noter que le maire et 4 adjoints constituent la municipalité de Diabo. Joseph Assalé, Diabo, Radio de la Paix.
Direction Yamoussoukro, où le nouveau dispositif sécuritaire de la police nationale, hôtel registration application Aura, a été lancé le 6 octobre dernier à Yamoussoukro. Ce système automatisé d'enregistrement des clients est conçu pour résoudre les problèmes de sécurité dans les hôtels et lieux d'hébergement dans les villes hôtes de la prochaine CAN 2023 en Côte d'Ivoire. En ligne donc de Yamoussoukro, Émile Yao.
Fonctionnelle à partir d'un code QR, l'application Aura permet de centraliser le processus d'enregistrement des clients en vue d'aider les unités d'enquête nationales et internationales dans leur recherche de grands criminels, notamment les terroristes et suspects associés, explique Alou Vincent Ibrahim, sous-directeur du fichier central de la police nationale.
Nous connaissons l'avènement qui va arriver à la Coupe d'Afrique. Il y aura du monde sur le territoire national. Et donc, le système Aura va nous permettre d'analyser efficacement les données des fiches d'hôtel et nous permettre de faire des recherches d'individus à risque et surtout de produire des statistiques fiables pour prendre les dispositions sécuritaires.
L'utilisation du système Aura pose la problématique du respect des normes de protection des données à caractère personnel. Et là-dessus, Kwame Kwasi Boitini, directeur général adjoint en charge de la police scientifique, rassure.
Je voudrais rassurer l'assistance sur le fait que toute base de données criminelles est interrogative et n'est utilisée qu'à l'occasion d'enquête.
Convaincu de l'utilité du dispositif Aura, le secrétaire général de préfecture de Yamoussoukro, Koulibaly Yaya, invite les populations à se l'approprier.
À l'occasion de la CAN 2023, la ville de Yamoussoukro s'attend à recevoir beaucoup de visiteurs. Je voudrais par conséquent en appeler à l'adhésion totale de toutes les couches sociales à ce système en raison de la menace terroriste grandissante dans la sous-région ouest africaine.
Les 5 villes hôtes de la CAN 2023, notamment Abidjan, Yamoussoukro, Boaké, Korogo et San Pedro, vont couvrir la phase pilote du système Aura. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Et puis à la faveur des journées des écoles maternelles et primaires de Bois-Kako, les cadres de ce village situé dans le sud de la sous-préfecture d'Iré ont décidé de maintenir ouverte toute l'année la cantine scolaire par l'achat de vivres à hauteur de 13 millions de francs CFA. Cela pour garder les enfants à l'école dès cette rentrée et afin d'accroître la fréquentation des classes et ainsi donc obtenir de meilleurs résultats à terme. Sur place, notre correspondant Abel César Cassin.
Le président du comité des sages de la mutuelle de développement économique et social de Bois-Kako, l'ex-président de région Joseph Diablé, a offert divers matériels didactiques de plus d'un million de francs aux enseignants pour les tirer du besoin. Également, un repas gratuit à tous les élèves pour marquer la réouverture de la cantine scolaire. Diablé précise les nouveaux enjeux pour cette cantine.
Nous voulons faire ça toute l'année et 4 fois par semaine. Ce qui se faisait jusque-là, honnêtement, il faut le dire, l'État donne pour 18 jours. L'effort qu'on est en train de faire, c'est que l'enfant rentre gratuitement. Mais ça veut dire que derrière, les parents payent. Mais on ne leur demande pas de l'argent. On dit de participer avec des choses en nature. Ça, c'est un gros challenge parce que le débit fait 13 millions.
Le directeur de l'EPP Bois-Kako, Kwame Kwadio Christophe, se réjouit de cette initiative des cadres. Il en donne les raisons.
Ils ont donné des sacs de riz, près de 300 000 pour qu'on puisse démarrer. Les enfants seront ponctuels désormais. Avant, quand les enfants avaient faim le soir, ils ne revenaient pas à l'école.
Tout cela vise un objectif lointain que nous dévoile le professeur des universités Indre Charles, cadre de ce village qui a co-animé une conférence.
C'est d'inculquer un changement de mentalité, mais aussi de participer à la création des champions au niveau local ici.
La mutuelle a dit prendre en charge également la moitié des frais judiciaires relatif à l'établissement des jugements supplétifs de tous les écoliers sans papier de ce groupe scolaire. De retour de Bouakako, Iré Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Dans l'actualité africaine, au moins 27 personnes ont péri dans l'effondrement d'un pan de colline recouvert d'habitations précaires au Cameroun. Ces éboulements ont été provoqués par des pluies torrentielles dimanche soir à Yaoundé, la capitale camerounaise, et les secouristes recherchent encore des victimes ce lundi. Place à présent à l'invité de la rédaction avec le professeur Jean-Marie Kouakou et d'aborder la question de la récurrence des coups d'État en Afrique de l'Ouest et presque tous ces coups d'État contre les présidents élus ont été applaudis par les populations. Donc, comment expliquer une telle situation ou encore ce phénomène des coups d'État? L'observateur au quotidien de la scène sociopolitique africaine, professeur Jean-Marie Kouakou, répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour, professeur Jean-Marie Kouakou.
Bonjour, monsieur Soro.
L'Afrique de l'Ouest, après une période d'accalmie, semble avoir renoué depuis 2020 avec les coups d'État militaires. 6 coups d'État en moins de 3 ans. En Afrique de l'Ouest francophone. Mali, 2 coups d'État en août 2020 et en mai 2021. Guinée-Conakry, coup d'État en septembre 2021. Burkina Faso, 2 coups d'État pour la seule année 2022. En janvier 2022, le président Roch Marc-Christian Kabore est renversé. Le 30 septembre 2020, soit 8 mois après celui de janvier 2022, Paul-Henri Damiba, le tombeur du président Roch Christian Kabore, est chassé à son tour par le capitaine Ibrahim Traoré qui prend le pouvoir à Ouagadougou. Niger, 26 juillet 2023, le président Mohamed Bazoum est déposé par les militaires menés par le général Abdourahmane Tchiani. Alors, tant de coups d'État militaires, des coups d'État généralement applaudis par la population. Professeur Jean-Marie Kouakou, cette résurgence des coups d'État, ce n'est pas un échec de la démocratie dans les pays africains?
Ah si, parce qu'on a beau parler de la France, il faut peut-être d'abord parler de nous-mêmes. Parce que c'est quand même étonnant que Mohamed Bazoum, comme Ibeka au Mali, comme Kabore au Burkina Faso, tous ces gens avaient été élus démocratiquement. Ce sont des populations qui ont en principe donné leur adhésion, leur choix, à cette personne élue. Alors comment ça se fait que 2 ou 3 années après, ces mêmes populations crient de joie lorsqu'elles se rallient à un coup d'État et il n'y a même pas de contrepoids qui dit non, on refuse le coup d'État. Même les oppositions se taisent, elles adhèrent en général à ces coups d'État. Donc il y a quand même problème quelque part. Ça veut dire que les systèmes démocratiques en question étaient de papier, étaient du faux, quoi. C'était presque du toc. Parce que ce n'est pas possible que celui qui a élu dise en même temps je te déchois par les armes. Enfin, quelque chose qui ne va pas. Il y a problème. Pourquoi on distingue les États francophones des États anglophones? Ça, c'est très intéressant. Parce qu'on constate aujourd'hui que la plupart des États anglophones africains ont réussi le passage à un système démocratique, tout au moins au niveau des élections. Aujourd'hui, dans tous ces États, que ce soit le Ghana, le Libéria, Sierra Leone, le Nigeria, tous ces pays réussissent à faire des élections démocratiques qui permettent l'alternance de pouvoir. Or, qu'est-ce qu'on observe dans tous ces États francophones qui sont autour de nous partout? On observe quoi? C'est que des chefs d'État sont encore là, pendant trop longtemps. Regardez au Congo, je ne sais pas depuis combien d'années, au Cameroun, etc. Mais ce sont des systèmes qui ne favorisent pas du tout la transition démocratique.
Alors, à qui la faute? La France ou à nous-mêmes, Africains, francophones?
Jusqu'à une certaine époque, la France-Afrique se faisait de la France vers l'Afrique. C'était la France qui décidait que tel président, je te maintiens au pouvoir. Je fais ceci, je garde ceci, donne-moi cela en échange. Donc le vecteur, c'était France-Afrique. Il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État ont inversé le système, c'est devenu Afrique-France. Lorsqu'ils veulent se faire maintenir au pouvoir chez eux, ils vont vers l'Élysée. Ils vont vers l'Élysée, ils disent, tais-toi sur la question des droits de l'homme chez moi, et je te passe des marchés en retour, je reste au pouvoir. Donc le système est inversé, et la France aussi a conclu le jeu, elle gagne. Celui qui est au pouvoir ici, il gagne aussi, pareil. Et donc, du coup, c'est mixte, mais c'est des systèmes pervers. C'est-à-dire que les gens restent au pouvoir et deviennent responsables devant l'Élysée sans être responsables devant leur peuple. Et du coup, ce peuple-là, à un moment donné, se révolte contre lui parce qu'il sait très bien qu'on a utilisé sa propre dignité, sa propre voix pour dire « c'est toi qui m'as élu ». Et ce peuple dit « je ne t'ai pas élu ». Voilà.
Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, les populations applaudissent les coups d'État militaires.
Oui, mais ça s'observe précisément dans les pays africains francophones. En principe, comment est-ce qu'on peut applaudir un coup d'État militaire? Ça ne se fait pas. On n'applaudit pas un coup d'État militaire. On ne le fait pas. Mais si le fond, ça veut dire qu'il y a quand même un problème quelque part. On devrait s'interroger. S'il y a un coup d'État militaire, tout le monde devrait avoir peur et dire maintenant, il y a problème. Or, tout le monde est content. Ça veut dire que personne, en réalité, n'a vraiment prêté sa voix à l'élection en question. Mohamed Bazoum a subi 3 coups d'État avant que le 3e ne marche. Et le Niger avait décidé de tourner la page des coups d'État. Il ne faut pas oublier que le Niger, avant ça, a subi 7 coups d'État parce qu'il avait 2 voisins difficiles, à savoir le Tchad et la Libye de Kadhafi. Le Niger a décidé de quitter ce système de brutalité. Et voilà qu'aujourd'hui, le même Niger qui a refusé ça, le Niger aujourd'hui applaudit un coup d'État. Il y a eu 7 rébellions, il y a eu 7 rébellions au Niger. 7 rébellions avant tout ça, mais les rébellions, c'est comme des coups d'État. Donc du coup, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que les régimes en place dans les États africains francophones gagneraient à se poser de vraies questions et gagneraient sincèrement, mais très sincèrement, à passer à des régimes démocratiques, à ne pas chercher à se maintenir au pouvoir, vaille que vaille, coûte que coûte.
Je vous remercie, professeur Jean-Marie Kouakou.
C'est moi qui vous remercie vraiment, monsieur Soro. Merci beaucoup.
Professeur Jean-Marie Kouakou, observateur au quotidien de la scène sociopolitique africaine, était avec Soro Adams dans le cadre de l'invité de la rédaction, un entretien qui met un terme à notre édition, le rappel des titres. Renforcer l'action de l'Organisation internationale du cacao dans le développement de l'industrie cacaoyère mondiale, c'est l'engagement pris par le nouveau président élu de l'ICCO, Rafael Soriano, également ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire. Et puis parlons de l'annulation des résultats des élections locales dans certaines localités par le Conseil d'État. Le Code électoral prévoit la reprise des élections dans un délai de 3 mois, mais ce délai peut être prolongé jusqu'à 10 mois par le gouvernement en Conseil des ministres, nous a confié le juriste Geoffroy Julien Kouaou. Et puis l'actualité internationale pour terminer nous a conduit au Cameroun où au moins 27 personnes sont mortes dans un éboulement dû aux pluies à Yaoundé. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette édition de la mi-journée de ce lundi 9 octobre 2023 sur Radio de la Paix. Retrouvez tout de suite Francis Cassis pour la revue de presse.
Bonjour à tous. Supputation dans vos journaux. Dans